France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bienvenue sur France Musique. Tout de suite et jusqu'à 9h, Musique Matin par Clément Rochefort. Bonne journée. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin sur France Musique jusqu'à 9h. Nous sommes le mardi 13 juillet 2021, veille de la fête nationale. Et on ne va pas s'ennuyer, croyez-moi, ce serait même le contraire, puisqu'on ira d'abord prendre le pouls des petits festivals à 7h40. À 7h50, dans le jeu de l'été, je vous proposerai de gagner aujourd'hui un disque de concerto de Chopin par le pianiste Benjamin Grosvenor. À 8h, le journal de Marie-Hélène Duvigneau. À 8h10, le Tour de France des festivals nous entraînera à Salzbourg avec son directeur artistique Markus Hinterhäuser. À 8h25, l'été des frères Jacques comme tous les jours. Et à 8h30, notre invité du jour sera le claveciniste et chef du caravansérail Bertrand Cuiller, avec qui on parlera de Bach et peut-être un peu de Scarlatti. Et puis vous le savez, j'aime démarrer chaque matin cette émission par une pièce qui met en jambe et qui met en joie, histoire de se tirer du lit du bon pied en prenant le sien par les oreilles. J'ai donc choisi un des psaumes les plus mis en musique, le psaume 112, Beatus vir, heureux homme. Psaume qui chante le bonheur intact à venir de l'homme qui vit dans la foi de Dieu. Psaume que Claudio Monteverdi a mis en musique dans sa Selva Morale et Spirituale, et ce grand recueil de pièces sacré, et c'est en même temps un beau souvenir de l'année écoulée que je voudrais vous faire partager, car voici la version de ce psaume donnée le 13 mars dernier au studio 104 de la Maison de la Radio par les Cris de Paris de Geoffroy Jourdain dans l'émission Génération France Musique, le live que j'ai la joie d'animer pendant toute la saison. Vous allez voir, c'est un shot de joie gorgé du soleil italien. Bon réveil et bienvenue à tous sur France Musique.
Beatus, 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 Beat
Alors ça, c'est vraiment la plénitude totale en musique. En tout cas, pour moi, c'était le Beatus Vir, Beatus Vir de Monteverdi, extrait de sa Selva Morale Spirituale, interprété par les Crit Paris, dirigé par Geoffroy Journant, lorsqu'ils étaient venus nous voir dans Génération France Musique, le live, le 13 mars dernier, au studio 104 de la Maison de la Radio. C'est bien entendu une émission à réécouter sur francemusique.fr. Je dis ça parce qu'ils n'avaient pas fait que le Beatus Vir, ils avaient fait tout un programme autour de Monteverdi, sans doute un de mes compositeurs préférés. Il est 7h40.
C'est l'été sur France Musique.
Et tout de suite, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité musicale. Et on apprend dans Diapason la mort d'Esther Bejarano, l'une des dernières survivantes de l'orchestre d'Auschwitz, déportée à 19 ans en avril 1943. Elle avait échappé à l'extermination car elle jouait de l'accordéon. Elle avait intégré dans le camp l'orchestre féminin monté sur ordre des SS, orchestre qui regroupait une quarantaine de jeunes filles. À la libération, Esther Bejarano était partie s'installer en Israël. Elle s'est éteinte samedi 10 juillet au matin à l'âge de 96 ans. Elle aura dédié sa vie à la musique et à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Plus d'infos sur diapasonmag.fr. L'association pour le rayonnement des orgues de Saint-Sulpice à Paris et l'ensemble vocal Sequenza 9-3 de Catherine Simon-Pietri ont lancé il y a quelques mois un concours de composition autour des deux instruments cavaliers-cols de l'église parisienne. Sur les 72 candidats de 20 nationalités différentes à avoir participé à la catégorie grand orgue, 4 ont été retenus pour la finale publique du 21 novembre. Gabriele Agrimonti, Andrea Damiano Cotti, Jean-Emmanuel Filet et Thomas Kienz. Pour la catégorie ensemble vocal et orgue, les candidats ont jusqu'au 1er août pour envoyer leur dossier. Lors d'une cérémonie à la résidence de l'ambassade de France à Vienne, la présidente du festival de Salzbourg, Helga Rabelstadler, et son directeur artistique, Markus Hinterhäuser, ont respectivement été nommés commandeurs des arts et des lettres et officiers des arts et lettres par l'ambassadeur de France en Autriche, Gilles Pécou, deux nominations motivées par leur grand mérite dans la promotion de la scène musicale française en Autriche et dans les relations franco-autrichiennes dans le domaine de la culture. Tout à l'heure à 8h10, Markus Hinterhäuser sera notre invité dans le Tour de France des festivals pour parler justement de l'édition 2021 du Festival de Salzbourg. Mais il n'y a pas que Salzbourg, Aix-en-Provence, Verbier et autres grands festivals comme la Roque d'Anthéron. Il y a aussi les petits festivals par le nombre de personnes qu'ils accueillent, du moins en dessous de 1000 personnes par concert. Ces petits festivals peuvent s'organiser plus facilement facilement. Pas besoin du pass sanitaire par exemple, en tout cas pour l'instant. Mais ces festivals, souvent en zone rurale, doivent faire face à d'autres soucis logistiques. Ce sont de véritables bouffées d'oxygène pour des territoires qui sont d'ordinaire assez isolés culturellement et qui le sont encore plus depuis la crise sanitaire. Direction le sud-ouest avec Martin Delacou. On le retrouve à Orthez, entre Pau et la Côte Basque, au Festival international de guitare en Béarn.
Premier concert en 2 ans pour Trio Inu Uno, une éternité pour ce groupe italo-brésilien venu présenter des morceaux d'Astor Piazzolla ou de Marco Pereira. José Ferreira, queue de cheval et immense sourire aux lèvres, est le guitariste du trio.
Finalement, ça procure une émotion assez intéressante. C'est presque comme un retour au début des concerts. Cette émotion, cette découverte, un peu d'anxiété, un peu de trac aussi, mais voilà, finalement ça s'est bien passé, on est content.
Jean Masmonté, président fondateur du festival, est lui aussi très ému, d'autant que l'organisation n'a pas été de tout repos avec des artistes qui n'ont pas pu venir à la dernière minute.
Certains habitent dans des pays qui viennent d'être reconfinés pour quelques semaines, donc difficile de voyager, mais au fil du temps, les artistes deviennent des amis puisque nous les logeons chez nous, nous partageons nos repas avec eux, ils nous connaissent, et voilà, il suffit d'un petit coup de fil et de dire, tiens, voilà, j'ai un de tes collègues qui ne peut pas se déplacer, est-ce que toi tu peux venir? Et ils acceptent tout de suite, c'est génial.
Situation un peu différente au Festival de musique de chambre de Thèse, dans le nord des Pyrénées-Atlantiques. Le festival a pu se tenir l'année dernière avec une formule remaniée, formule reconduite cette année du 20 au 30 juillet, comme l'explique Julien Hervé, le directeur du festival.
3 concerts en extérieur, au lieu d'en faire 6 habituellement, on en fait 3, et dans des lieux qui se prêtaient bien à la musique classique.
Comme dans la cour du château de Morlane, où a été enregistré l'année dernière le concert consacré à Schubert, dont on entend un extrait.
En plus de ça, on a créé un petit peu concept comme ça d'apéritif concert. Donc c'était une œuvre, un concert qui était en diffusion sur YouTube en fait.
Direction les Hautes-Pyrénées et le festival Opéra au Sommet d'Esquies-Serre, petit village de la vallée du Gave de Gavarnie. Patrice Villaume en est le maire et organise ce festival.
Ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener l'opéra à la frontière franco-espagnole, dans un coin un petit peu retiré. En tous les cas, on n'a pas la chance d'avoir des grandes salles. Il faut aller à Toulouse ou à Bordeaux.
Le festival fait le pari de jouer des œuvres connues pour attirer un public qui n'irait pas voir de l'opéra si l'opéra ne venait pas dans la vallée.
Cette année, ça marche très fort. Je suis pas sûr qu'on ait assez de place. On va refuser du monde. Peut-être qu'on jouera une matinée supplémentaire parce qu'on aura trop de monde.
Le festival se tient du 3 au 7 août avec une représentation chaque soir.
Un reportage signé Martin Delacou. Alors en parlant de petits festivals qui font de grandes choses, je pense au festival Musique et Nature en Bauges, qui lui se tiendra du 17 juillet au 15 août dans plusieurs villages du massif des Bauges, un massif qui est à cheval sur la Savoie et la Haute-Savoie, avec des invités plus que prestigieux, la Capella Mediterranea de Leonardo Garcia Alarcón, la famille Pidou, le quatuor Julliard, l'ensemble Pulcinella d'Ophélie Gaillard, le duo du violoniste Théotime Langlois de Swart et du claveciniste William Christie, les pianistes Anne Kefelek et Marie-Ange Nucci, ou encore la violoncelliste Anne Gastinel qui jouera en duo avec la pianiste Claire Désert le 24 juillet. Un programme Saint-Saëns, Fauré et Chopin. Anne Gastinel que voici avec Xavier Philippe, à 2 violoncelles, dans l'un des virtuoses duos d'Offenbach, grand violoncelliste lui-même.
Thank you.
Un duo virtuose pour deux violoncellistes virtuoses, Anne Gastinel et Xavier Philips. C'était un des duos de deux violoncelles de Jacques Offenbach, ici une polonaise. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il est 7h51, je vais vous faire une confession, je déteste perdre. Et vous ? Eh ben oui, c'est l'heure de jouer et de gagner, si possible, ce matin. Gagner quoi? Le disque du jeune pianiste britannique Benjamin Grosvenor, consacré aux deux concertos de Chopin par l'Orchestre Royal d'Écosse, dirigé par Elim Chan, paru l'année dernière chez Decca. Benjamin Grosvenor, qui est vraiment, alors pour moi, un artiste exceptionnel, avec des doigts d'araignée, qui court comme ça, avec une précision féroce sur le clavier. Et puis, c'est vraiment un grand chopinien, il en a compris la saveur pastel et lyrique, sans aucun pathos superflu. Bref, très beau disque. Pour gagner, eh bien, il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre en nous écrivant via l'onglet « Contactez-nous » sur la page de l'émission Musique Matin sur musique.fr en n'oubliant pas de nous indiquer vos coordonnées complètes. Alors voici la question. À l'hiver 1839, le couple Chopin et George Sand étaient partis pour un séjour sur un archipel très convoité aujourd'hui par les touristes estivaux. Lequel? Est-ce que c'était les Canaries, les Cyclades ou les Baléares? À l'hiver 1839, 1838-39, le couple Chopin et George Sand étaient partis pour un séjour sur un archipel très convoité par les touristes. Lequel? Les Canaries, les Cyclades ou les Baléares? Vous avez jusqu'à 8h50 pour participer. Heure du terrible tirage au sort, réponse tout à l'heure. Thank you. Le rondo final du premier concerto pour piano de Frédéric Chopin, interprété par Benjamin Grosvenor avec l'Orchestre National Royal d'Écosse sous la direction de Ilim Chan. Et cet extrait de ce disque qui est donc en jeu ce matin. Je vous rappelle une dernière fois la question, puisque vous pouvez encore participer tout au long de l'émission jusqu'à 8h50. À l'hiver 1838-39, le couple Chopin et Georges Sand étaient partis pour un séjour sur un archipel très convoité, lequel? Les Canaries, les Cyclades ou les Baléares? Vous pouvez continuer à participer sur francemusique.fr. Benjamin Grosvenor sera lui en concert le 19 juillet au festival de Saint-Paul-de-Vence dans un programme Brahms, Liszt, Ginastera et Ravel.
Une histoire de la musique contemporaine sur francemusique.fr. Trois nouveaux épisodes à découvrir.
Après son marteau 100 mètres, Boulez s'assouplit.
Alors, premier exercice, souplesse du dos.
Mais non, pas comme ça. Sa musique se détend et devient de plus en plus cool.
Une histoire de la musique contemporaine, premier épisode, Boulez Stockhausen, un podcast original de Thomas Vergracht sur francemusique.fr.
Avec la maison de la musique contemporaine.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles, et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Bonjour à ceux qui nous rejoignent à l'instant sur France Musique, il est 8h. Et à 8h, c'est l'heure des informations contemporaines de Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour.
Bonjour Clément, bonjour à tous. Emmanuel Macron met les non-vaccinés sous haute pression dans son allocution d'environ une demi-heure. Hier soir, le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures radicales pour éviter une quatrième vague de Covid et de malades dans les hôpitaux, alors que l'épidémie reprend en raison du variant Delta plus contagieux. Tara Schlegel.
Tous les soignants et non-soignants sont concernés. Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements pour personnes handicapées, même les employés à domicile au contact de publics fragiles. Ils ont jusqu'au 15 septembre, 2 mois, car après il y aura des contrôles et des sanctions. Mais comme le président de la République ne peut pas contraindre l'ensemble de la population, il lance un appel solennel à se faire vacciner partout cet été. Il veut favoriser ceux qui ont fait preuve de civisme et il brandit le pass sanitaire qui désormais va devenir une sorte de sésame obligatoire. D'ici 9 jours, pour tous les lieux culturels, cinéma, théâtre, festival, musée, il va falloir montrer son QR code. Et d'ici le 1er août, ce sera indispensable dans les cafés, restaurants, centres commerciaux et même pour prendre le train, le car, etc. Pour l'instant, le test PCR peut suffire à la place d'un vaccin, mais dès cet automne, ces tests ne seront plus remboursés, sauf sur prescription médicale, et ça va de facto inciter les Français à opter pour un vaccin. D'ailleurs, pour les jeunes à partir de 12 ans, des campagnes de vaccination seront organisées au collège et lycée. Et une troisième dose, un rappel, va être possible dès la rentrée pour tous ceux qui le souhaitent.
Et ces annonces visant à inciter à la vaccination ont, semble-t-il, fait mouche. Le site Doctolib annonce ce matin qu'hier, 926 000 Français ont pris rendez-vous pour recevoir une première dose de vaccin, essentiellement après l'intervention du chef de l'État. C'est un record absolu. À 9 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron a aussi, hier soir, été soucieux de se projeter au-delà de la crise sanitaire. Assurant chômage, retraite, dépendance, il a annoncé une remise en route de ses réformes, Rosalie Lafarge.
4 fois avenir, 3 fois destin. Dans le choix des mots, le président effectivement s'attache à voir plus loin, sans nier la réalité du virus.
Je vous l'avais dit l'année dernière, nous allions devoir vivre avec le virus. Ce sera le cas tout au long de cette année 2021 et sans doute pour plusieurs mois encore de l'année 2022.
Mais sans céder à l'immobilisme que ce virus pourrait imposer.
Plus vite nous concrétiserons le plan de relance, plus fort sera notre rebond.
Parce qu'Emmanuel Macron ne pense pas à court terme, pas seulement en tout cas. Il veut bâtir
la France de 2030.
Une France nation de recherche, d'innovation, d'agriculture et d'industrie. Une France dont les priorités doivent être le travail et le mérite.
On doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi. Ce qui n'est actuellement pas toujours le cas.
Pour les jeunes sans emploi ou formation, Emmanuel Macron promet un revenu d'engagement à définir à la rentrée. Pour nos aînés, il esquisse la réforme attendue autonomie grand âge. Et pour ne pas accompagner tout cela de hausse d'impôts, le chef de l'État l'assure, la réforme des retraites est nécessaire, même s'il ne peut l'engager dès maintenant.
Je ne lancerai pas cette réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée.
Le président, certes pas encore candidat, mais tout de même enseigne une poursuite d'activité au-delà d'avril 2022.
Un chiffre glaçant, entre 7 000 et 10 000 enfants se prostituent en France. Il s'agit quasiment uniquement de filles de 15 à 17 ans, des mineurs de plus en plus jeunes et souvent vulnérables dans des situations familiales compliquées ou ayant déjà subi des violences sexuelles. C'est le constat alarmant dressé par un rapport d'un groupe de travail présidé par la procureure générale de la Cour d'appel de Paris. Il doit être remis aujourd'hui au secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, qui va annoncer un plan national de lutte contre la prostitution des mineurs pour l'automne. Cuba accuse Washington d'être derrière les manifestations inédites survenues dimanche sur l'île via sa politique d'asphyxie économique. Des accusations qualifiées de grave erreur par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le président des États-Unis Joe Biden appelle lui le régime cubain à entendre son peuple et son appel vibrant à la liberté en se gardant de toute violence. Même ton du côté de l'Union européenne qui demande aux autorités d'autoriser ces manifestations et d'écouter le mécontentement des manifestants. Après une nouvelle manifestation hier soir à La Havane, le calme est revenu, mais la police et l'armée sillonnent les rues de la capitale et des dizaines de personnes, dont des journalistes indépendants cubains, ont été arrêtées. Le temps, aujourd'hui, pluie et averse rythment à nouveau la journée. Des précipitations parfois orageuses touchent l'est du pays, les régions au nord de la Seine et de la Normandie et des pays de la Loire, au sud-ouest avec de bons cumuls localement autour de la Méditerranée. À l'exception d'un risque d'ondées sur la Corse, le soleil l'emporte. Les températures, 12 à 15 degrés en général ce matin, 16 à 22 près de la Méditerranée, 17 à 22 cet après-midi, 23 à 30 sur le pourtour méditerranéen et en Corse. France Musique, 8h. Et c'est à vous, mon cher Clément.
Merci Marilène Duvigneau. Enfin, merci, même si vous me déprimez avec votre météo tous les jours.
Je suis désolée, je n'y suis pour
oui,
rien.
Oui, mais heureusement, à partir de jeudi, Musique Matin se déplace et nous serons en direct de Montpellier au Festival de Radio France Occitanie Montpellier. Je pense qu'on aura un peu plus de soleil.
Ah, j'espère pour
Marie-Hélène, prochain journal à midi sur France Musique. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue sur France Musique. On est ensemble jusqu'à 9h. Avec à suivre le Tour de France des festivals à 8h10, nous irons au Festival de Salzbourg. À 8h25, l'été des frères Jacques. Et puis à 8h30, notre invité du jour, un claveciniste totalement fou et totalement génial, c'est Bertrand Cuiller. Mais si vous êtes dans la région de Fontainebleau et que vous aimez les femmes, ne manquez pas de passer par le château de Rosa Bonheur, où se tient pour la deuxième année un festival 100% dédié à la création féminine. C'est à Thomery, au cœur de la forêt de Fontainebleau. Cette superbe demeure a abrité pendant plus de 40 ans la peintre Rosa Bonheur au 19e siècle, première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur et a déclaré que le génie n'a pas de sexe. En 2022, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, le musée d'Orsay lui consacrera d'ailleurs une importante exposition. Mais en attendant, depuis début juillet et jusqu'à la fin du mois d'août, des concerts de musique classique, de jazz, du théâtre, de la folk, de la gastronomie, des lectures et même une expo photo dans les bois du château. Parmi les artistes invités, on retrouvera par exemple la soprano Sandrine Pio, qui est la marraine du festival, la mezzo-soprano Lucille Richardot, la chanteuse Rosemary Stanley, Juliette. Je ne peux pas vous dévoiler et vous détailler tous les concerts, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a plein de musique, de compositrices à redécouvrir, de baroque à nos jours, avec une palanquée d'artistes qu'on connaît bien sur France Musique, mais tout est sur le site du festival, en tout cas le site du château www.château-rosa-bonheur.fr. Je ne veux pas. Un petit extrait du premier acte de Cendrillon. Cendrillon, un opéra de Pauline Viardot, Si je n'y venais pas, qui donc le balayerait, interprété par Sandrine Piau avec Nicolas Coq au piano. J'en profite pour préciser que le 1er août au festival Rosa Bonheur, Sandrine Piau chantera Clara Schumann, Germaine Taillefer, Fanny Mendelssohn, Mel Bonis, Nadia et Lily Boulanger, Alma Mahler et Pauline Viardot, dont on célèbre justement le bicentenaire cette année. Viardot à qui Charlotte Landru-Chandès consacre tous les dimanches de l'été à 13h sur France Musique, le feuilleton Le Fabuleux Destin de Pauline Viardot, c'est en replay et c'est à podcaster aussi sur francemusique.fr ou sur l'appli Radio France. Merci d'être avec nous ce matin, il est presque 8h10.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39h de Clément Rochefort.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, on va partir pour notre tour de France des festivals avec un vélo, mais un bon coup de pédale. Parce qu'on va très très loin, on va jusqu'en Autriche. On va aller retrouver Markus Hinterhäuser, le directeur du festival de Salzbourg. Et ça tombe bien qu'on soit en vélo ce matin sur France Musique, parce que je crois que les Allemands et les Autrichiens sont très en avance sur ces questions de mobilité. Ils aiment beaucoup faire du vélo. Je ne sais pas si c'est le cas de Markus Hinterhäuser qui est avec nous ce matin en ligne. Bonjour Markus.
Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous vous déplacez en vélo à Salzbourg?
Je pourrais, mais je suis tellement près du festival que j'ai pas besoin de vélo, de rien. Moi.
Tout se fait à pied. Alors le festival de Salzbourg, c'est un festival qui a fêté l'année dernière ses 100 ans, mais dans des conditions un petit peu particulières que tout le monde connaît. Est-ce qu'on peut dire que le véritable anniversaire, ça va être vraiment cette année?
Bon, le véritable anniversaire, c'était l'année dernière quand même, mais il y avait le corona et tout ça, et c'est toujours un problème très massif pour nous aussi cette année. On va essayer de réaliser un festival comme le monde est habitué à Salzbourg.
Alors cette année, c'est programme complet, avec donc des pièces qui ont été reportées de l'année dernière, qu'on pourra voir cette année, qui n'ont pas pu avoir lieu.
On fait le Don Giovanni, on fait Intolleranza de Nonno et on fait une reprise de l'Electra et de ce Così fan tutte. On a quatre opéras et puis on fait une Tosca qui a été aussi programmée l'année dernière.
Markus Hinterhäuser, le festival de Salzbourg, c'est aussi un festival de théâtre. Il y a aussi des pièces de théâtre parlées.
On fait Maria Stuart de Schiller, on fait une pièce de Hofmannsthal.
Alors oui, justement, je voulais vous poser une question là-dessus. Ce Jedermann, qui veut dire en français, je crois, chacun de nous, chaque homme, pièce de Hofmannsthal, qui était un des fondateurs du festival. Est-ce qu'elle continue à être donnée chaque année depuis 100 ans? Elle a été donnée tous les ans sur la place de la cathédrale en ouverture?
C'est 100 ans qu'on fait le Jedermann, et c'est presque la DNA du festival. Mais quand même, il y a quelque chose dans cette pièce qui est très important pour notre vie et pour notre existence.
Markus Hinterhäuser, il faut rappeler que le festival de Salzbourg, c'est 168 spectacles sur 46 jours dans 17 salles différentes. C'est un des plus grands festivals au monde. Évidemment, on ne peut pas tout entendre. Il faut faire des choix. Alors, quels sont les grands moments incontournables de cette édition 2021?
Ça, c'est difficile de trouver une choix parce que toutes les manifestations sont mon bébé. Non mais quand même, il y a un Don Giovanni qui est vraiment spectaculaire avec la direction de Romeo Castellucci et la collaboration avec Teodoro Corensis. Et puis Intolleranza qui est une pièce vraiment forte et vraiment extrêmement importante dans notre temps. il y a une Così fan tutte qu'on a fait l'année dernière avec qui était une merveille. Et puis on a une Electra qui est extrêmement fort. C'était une chose d'une force et d'une intensité que je jamais vu sur la scène. Et puis il y a le cycle de l'orchestre de Philharmonique de Vienne avec Riccardo Muti, avec Andres Nelsons, avec Christian Thielemann. Il y a des pianistes comme Martha Argerich, comme Sokolov, Igor Levit, Yevgeny Kissin.
Riccardo Muti qui fête d'ailleurs ses 80 ans cette année, qui sera peut-être d'ici la fin du mois de juillet notre invité sur France Musique. J'ai encore une question, Markus Hinterhäuser. J'ai vu que cette année il y a une série de concerts intitulée Ouverture spirituelle et qui porte le titre de Pax, la paix en français. C'est une référence aux origines du festival ?
C'est une référence aux origines parce que les fondateurs aussi ont fondé ce festival de Strasbourg aussi comme un projet de la paix. Et moi, je crois que c'est important de souligner, comme on dit ça en français.
Oui, tout à fait.
Dans cette ouverture spirituelle, le thème de la paix, on commence avec... avec un concert qui est dédié au War Requiem de Benjamin Britten. C'est un requiem que Britten a écrit à la commémoration d'une fête des Allemands qui ont détruit la cathédrale de Coventry en Angleterre. Et ça, c'est très important pour moi de trouver un moment aussi de méditation sur la paix, sur... Et je crois que c'est très important, c'est très fort ce commencement du festival. Et puis il y a beaucoup de musique contemporaine, il y a beaucoup de musique de la Renaissance, il y a un mix qui est, je crois, très intéressant et très vitalisant aussi pour tout le festival. C'est une chose très avec un caractère très politique, pas la politique de chaque jour, mais ce sont des questions vraiment politiques.
Un message politique de paix, d'espoir, d'avenir. Bah oui, c'est ça aussi le festival de Salzbourg. 100 ans, c'est pas parce qu'on a 100 ans qu'on est un vieux festival. Le festival de Salzbourg est même un très jeune festival, puisqu'il y a aussi des masterclass publiques, des concerts avec des jeunes interprètes. Un festival qui est plein de vitalité, comme vous nous le disiez. Merci beaucoup, Markus Hinterhäuser, d'avoir été avec nous ce matin sur France Musique. Queste contadine, cameriere, cittadini, la contesse baronesse, marchesone, principesse, che madonna di ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. Nella bionda, veglia l'usanza,
se sia brutta, se sia bella, se se sia ricca, brutta, se sia bella.
L'air du catalogue, extrait de Don Giovanni, c'est bien sûr l'air de Leporello au premier acte, Don Giovanni de Mozart, interprété ici par Vito Priante avec l'ensemble Musique Eterna de Théodore Curensis. Alors justement, c'est le moment de sortir vos agendas France Musique, puisque ce Don Giovanni par l'ensemble Musique Eterna de Théodore Curensis, vous pourrez le suivre au Festival de Salzbourg sur France Musique. Ce sera le samedi 7 août à 20h. En tout, jusqu'à la fin du mois d'août, vous aurez environ 8 rendez-vous, 8 concerts qui nous viennent de Salzbourg. Je ne vais pas tous vous les citer, mais vous donner quelques rendez-vous importants, notamment le vendredi 20 août à 20h, la Missa Solemnis de Beethoven avec le Philharmonique de Vienne sous la baguette de Riccardo Muti. Le 21, un concert Mozart avec Sabine de Vielle, entre autres, et l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg dirigé par Ivor Bolton. Et puis le 21 août à 22h, ensuite, un programme Falconieri, Caresana, Girolamo Rossi avec Céline Sheen, Valère Sabadus, Luciani Mancini et l'ensemble Arpeggiata de Christina Pluart. Vous écoutez France Musique, il est 8h20. Eh ben, on va continuer à parler de concerts, mais les concerts de ce soir, ou les concerts d'aujourd'hui plutôt, avec 4 nouveaux concerts. À 16h, concert d'archives, comme hier après-midi autour du Festival de Saintes. Des concerts présentés par Benjamin François, le Festival de Saintes qui, je vous le rappelle, fête ses 50 ans cette année. À 20h, un programme Haydn avec le concert de la loge de Justin, avec le classiciste Justin Taylor et Julien Chauvin. Et puis à 21h30, un extrait du grand parcours Scarlatti 555 avec des sonates de Scarlatti interprétées par Justin Taylor. Ne manquez pas non plus à 23h le jazz été avec un concert d'Ida Sand. Mais moi tout de suite, j'aimerais vous faire écouter un petit extrait des archives du Festival de Saintes, la musique de Purcell.
Thank you.
La fin de Heil Bright Cecilia de Purcell, interprétée par le Collégium Vocal de Gand, la Chapelle Royale de Versailles, sous la direction de Philippe Hervègue. Et c'est extrait de ce concert du 7 juillet 1995, enregistré au Festival de Saintes à l'Abbaye aux Dames. Extrait de ce concert que vous pourrez donc retrouver cet après-midi sur France Musique avec Benjamin François. Il est 8h25.
C'est l'été sur France Musique.
Et à 8h25, c'est même l'été des Frères Jacques.
Qu'est-ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé, électrise.
Tout l'été, on essaie de redécouvrir quelques chansons de ce mythique quatuor vocal de la chanson française. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une chanson qui m'a beaucoup amusé et qui m'a été inspirée un petit peu par l'actualité de ces derniers mois. Souvenez-vous, on a beaucoup parlé des violences policières. Mais il y a bien longtemps que les forces de l'ordre sont la cible des critiques, voire de moqueries de la part des artistes et des chansonniers. Comme dans cette chanson de Marcel Dabadie et Jacques Breu, qui raille les agents de la circulation en les peignant comme des fonctionnaires un peu froussards, prêts à fermer les yeux sur les vrais crimes. Trop occupés à faire tournoyer leurs petits bâtons blancs pour verbaliser automobiles et vélos en infraction, plutôt que de prendre le moindre risque à défendre la population d'un véritable danger. Ça s'appelle la gavotte des bâtons blancs, les frères Jacques.
La nuit descend, l'ombre s'étend, c'est pas du tout rassurant.
Oh là mon Dieu, un cri affreux vous fait dresser les cheveux.
Un long frisson sous les nerfs.
Il y a du crime dans l'air. Il rôde des ombres d'assassins. L'étrangleur n'est sûrement pas loin.
Mais nous les agents de la circulation, on entend ça sans émotion. Les champions du petit bâton blanc, c'est nous.
Les assassins, c'est pas pour nous.
On peut être hyper à s'en dire au volet.
Notre consigne, c'est pas bouger.
On fait un effort parce qu'on est courageux.
Pour pas voir ça, on ferme les yeux.
Si l'on s'écoutait, bien sûr on bandirait. Mais sans nos voitures et piétons, qu'est-ce qu'ils feraient?
Tous en mêleraient, se télestamperaient.
Vous seriez bien avancé après.
Vous seriez bien avancé après.
Non, nous les champions du petit bâton blanc, il ne faut rien voir ou faire semblant.
Si vous pensez qu'il y a trop de crimes dans le quartier,
adressez-vous au brigadier.
Hep là, l'auto!
Le vélo, hein?
Alors, on grille les signaux?
Oui. Protestation?
Contravention!
Prochaine fois, fais attention!
Eh bien,
il fait un temps frigorifiant. Un pomme est dehors, un agent.
Quand on pense qu'il y en a qui sont dans.
Et qui boivent un bon grog bouillant.
Pendant ce temps-là, il nous faut verbaliser la goutte au nez, ratatiner.
Dans nos chaussures noires, nos tout petits bâtons,
pauvres mignons, pour les glaçons.
Et comme le froid rend les gens de mauvaise humeur,
tous les quarts d'heure,
un conducteur
vous traite de fripouille,
de vendu,
d'abruti,
de vieux débris.
Et j'en oublie
que on est très doux,
on ne répond rien du tout.
Il faut se méfier, ça se prend si vite un mauvais coup.
Sur le point qu'un vin, il ne prend pas de main.
On relève le nom du Pékin,
on relève le nom du Pékin.
Puis on remet en marche son petit bâton lent,
en se disant
plus que 15 ans.
Et à la retraite, on pourrait comme piéton
traiter les flics de tous les noms.
Sont-ils pas mignons, ces petits agents de la circulation? On a presque envie de leur faire des bisous. C'était la gavotte des bâtons blancs de Marcel Dabadie et Jacques Breu, interprété par les frères Jacques. Il est 8h30.
C'est l'été sur France Musique.
Et c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour, un invité qui, je crois, aime beaucoup les frères Jacques, c'est le claveciniste Bertrand Cuiller. Bonjour.
Bonjour.
Vous écoutez ça, vous aussi, à la maison, hein?
En ce moment, je les écoute, oui.
Ah oui, c'est marrant, c'était le hasard.
C'est le hasard. J'ai redécouvert ça, je me suis rendu compte que c'était aussi bien pour les enfants que pour les, grands.
C'est génial, on a envie de faire ça, on aura envie de faire des chansons comme ça.
Oui.
De parfois, s'amuser.
Parfois on a envie de faire ça, oui.
Bertrand Cuiller, vous serez avec votre ensemble le Caravansérail cet été pour plusieurs concerts, mais notamment aux heures musicales de l'abbaye de Lessay, c'est à Normandie, en Normandie le 13 août, et au festival de Saintes, dont on parlait tout à l'heure, le 20 août, pour interpréter des concertos à plusieurs clavecins de Bach. Alors avant de parler de la musique de Bach, vous connaissez déjà ces deux festivals ou c'est une découverte?
Alors je les connais, Saintes je le connais pas mal parce que j'y ai joué plusieurs fois, Lessay j'y suis passé une fois avec les Arflots quand j'étais petit. Quand j'étais jeune. Mais je m'en rappelle très vaguement de l'essai. Je le connais maintenant puisque je connais la réputation et je vois tout ce qui s'y passe. Et je précise juste qu'on va le jouer une troisième fois à Symphonie en Périgord le 23 août aussi.
Oui, bien sûr.
Pour les Périgourdins.
Bien sûr, il y a plein
d'autres dates.
Et
Sainte, évidemment, oui, j'y suis allé pas mal de fois avec des ensembles et voilà, c'est une grande fête.
Alors, Sainte, festival qui fête cette année ses 50 ans, c'était un peu le temple de Philippe Hervègue, autre grand interprète de Bach. Est-ce que c'est un musicien avec lequel vous avez grandi, vous?
Hervègue?
Oui.
Oui, enfin, je l'ai beaucoup écouté, quoi. J'ai beaucoup écouté son... Bref, ses passions de Bach, quoi, m'ont beaucoup... C'est en particulier ses passions de Bach que j'ai écouté des milliers de fois, à Saint-Mathieu. Et je l'admire beaucoup, beaucoup, ouais.
Alors à Sainte et à l'abbaye de Lessay, vous allez jouer, on le disait, des concertos à plusieurs clavecins de Jean-Sébastien Bach. Tous les concertos choisis, est-ce que c'était des concertos pour clavecin à l'origine?
Ah, ça, je ne sais pas vous répondre.
Oui, parce qu'avec Bach, la question se pose toujours.
Oui, là, c'est une question qui est posée, mais on ne sait pas exactement. C'est peut-être des transcriptions, comme il en faisait beaucoup. Et comme pas mal de concertos pour clavecin semblent être... Enfin, sont des transcriptions de concertos de violon... Mais ça, on ne sait pas. Ouais. Les concertos pour trois clavecins, on a cette question. Ouais, je ne sais pas. Alors, le concerto pour quatre clavecins, évidemment, c'est un concerto de Vivaldi, le célèbre concerto pour quatre violons. Je ne sais pas s'il est peut-être plus célèbre pour quatre pianos maintenant, d'ailleurs. Ouais. Mais des transcriptions. D'ailleurs, j'ai souhaité ajouter une transcription dans le concert. Enfin, oui, c'était... puisque cet art de la transcription était vraiment très prégnant, et puis on suppose que ces concertos sont issus d'autres concertos, donc j'ai fait une transcription du troisième concerto brandebourgeois pour trois clavecins, enfin en fait pour quatre clavecins.
Ah oui, alors pourquoi le troisième concerto brandebourgeois? Parce que a priori vous auriez pu être un peu plus feignant et puis prendre le cinquième, qui est le cinquième concerto brandebourgeois, qui est déjà presque un concerto pour clavecin à lui tout seul.
Faire un concerto pour clavecin accompagné par des clavecins, ça c'est bizarre. Par contre, faire un concerto d'orchestre, un concerto pour trois groupes de cordes, pour trois clavecins, ça me paraissait plus logique. Il y a vraiment le groupe des violons, le groupe des altos, le groupe des basses et la basse en plus, puisqu'on le fait à quatre avec un quatrième qui fait la partie de continuo, la partie de contrebasse, enfin de violoncelle. Donc non, ça marche super bien à trois clavecins en fait.
Bertrand Cuiller, est-ce qu'on sait si à l'époque de Bach lui-même jouait à trois ou quatre clavecins, si c'était une pratique courante avant Jean-Sébastien Bach?
Avant Jean-Sébastien Bach, je ne crois pas. Je n'ai pas entendu parler de ça, non.
Donc c'était un peu le premier comme ça à installer quatre clavecins.
Comme il a essayé beaucoup de choses au niveau des instrumentariums originaux, hein. En particulier dans les brandebourgeois, il a essayé plein d'instrumentariums très très bizarres avec des mélanges d'instruments qui n'avaient jamais été utilisés auparavant. Et donc ça m'étonne pas qu'il ait essayé ça.
Alors quand on est quatre solistes, a fortiori quatre clavecinistes, on va donner leur nom, il y aura Pierre Gallon, Jean Rondeau et Violaine Cochard pour le concert de l'essai le 13 août, et puis ce sera Olivier Fortin qui remplacera Jean Rondeau, côté de Violaine et de Pierre, et de vous-même bien sûr, à Sainte le 20 août. Quand on est quatre clavecinistes habitués à improviser avec sa propre liberté, à orner comme on le veut, comment on fait pour s'aligner sur un même style musical? Qu'est-ce qui décide?
Alors là, déjà, on n'improvise pas parce que vraiment toutes les notes sont là, c'est Bach qui est là et on fait pas de fioritures personnelles. Mais surtout, on est, il se trouve qu'il y a quand même, Enfin, moi, j'ai choisi les claveciniste en fonction de comment, des affinités autant humaines que musicales. Et je sais qu'on va chacun, on a chacun des styles de jeu différents, mais on a chacun envie d'aller vers les autres. Et donc, on travaille comme ça. On travaille pour trouver un style de jeu qui corresponde. Mais on garde quand même chacun notre son et notre patte. Hein. Quand on joue, on joue quand même très différemment. Mais on cherche un truc qui fonctionne ensemble. C'est ce qui m'intéresse toujours quand on joue avec des gens, c'est qu'ils ont tous une personnalité chouette et qu'on essaye de faire un son d'ensemble tout en gardant les personnalités, quoi. C'est la musique de chambre.
Un concerto de Jean-Sébastien Bach, en tout cas un extrait, c'était le troisième mouvement, le final du concerto en sol mineur, BWV 1052, ça c'est pour l'immatriculation. Avec vous, Bertrand Cuiller, l'ensemble Stradivaria de votre papa Daniel Cuiller, un disque qui a quelques années maintenant, un disque fait en famille.
Oui, on l'a enregistré en 2009.
Ouais. Il y avait votre frère aussi?
Il était là, disque... il était derrière les micros, à la console, il faisait la direction artistique.
Ouais. À Nantes, le baroque, tout se fait en famille. Hein. Bon, Bertrand Cuiller, vous m'avez dit tout à l'heure une chose, puisqu'on parlait de ces concertos à plusieurs clavecins de Jean-Sébastien Bach que vous allez donner cet été dans le Périgord, bien sûr, mais aussi à Saintes et à l'abbaye de l'Essai, m'avait dit, oui, mais vous savez, non, mais il n'y a pas de problème de cohésion, puisque, en fait, tout est écrit. Mais alors, on ne peut pas orner la musique de Bach. Je vous pose la question parce que la semaine dernière, je recevais le chef et claveciniste Stéphane Fuget, que vous connaissez peut-être, oui. Qui fait un énorme travail sur le Recitar Cantando, sur l'ornementation. Et puis après l'émission, on est allé au café, on a discuté, comme on fait ça souvent, de l'ornementation chez Bach. Alors, c'est quoi votre point de vue? Il faut pas orner.
Alors, moi, j'ai un point de vue personnel sur comment je fais quand je joue. J'ai pas de point de vue sur ce que doivent faire les autres et sur ce qu'on pouvait faire à l'époque. Je suppose que l'ornementation était présente. Moi personnellement, dans Bach, je sais pas pourquoi, c'est genre peut-être un genre de vénération qui fait que je ne change rien, mais absolument rien. Et mon seul challenge, c'est de comme un pianiste qui prend une œuvre romantique ou quoi, c'est de prendre la partition et d'essayer de l'interpréter le mieux possible, voilà, avec vraiment un recul par rapport à la partition et de pas toucher. Alors un ornement, un tremblement ou un pincé, comme il y en a dans la musique, qui sont écrits parfois, qui sont indiqués. Voilà, je l'ai fait et évidemment on a une souplesse sur la longueur de l'ornement et comment on l'interprète, mais moi j'en rajoute pas en fait.
Parce que dans les suites de Bach, parfois on voit bien qu'il écrivait des sarabandes en deux parties, avec une partie avec ornement, une partie sans, ce qui sous-entend que lui-même devait orner certainement
peut-être,
quand il jouait. Hein, peut-être, on n'est pas sûr.
Bon.
En parlant de Bach, vous avez participé récemment à l'enregistrement d'un beau disque de sonates pour flûte traversière de Bach. C'était avec le flûtiste Frank Tuns, pour le label Ramé. Des sonates notées pour clavecin obligé. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire cette formule qu'on entend souvent comme ça, sans l'expliquer?
Oui, obligato, c'est que le clavecin, quand on a un instrument de dessus, le clavecin fait une partie de continuo, une partie d'accompagnement avec une basse écrite, une main gauche écrite. Et réalise un accompagnement à la main droite, des harmonies et des rythmes à la main droite. Et là, clavecin obligé, ça veut dire que les deux mains sont écrites. Toute la partie est écrite. Donc c'est un dialogue vraiment plus entre le clavecin et la flûte plutôt qu'un accompagnement.
Ouais, donc là, encore une fois, pas de liberté.
Hein. On fait. C'est pas que je.
Ce que Bach a dit.
Pas de liberté. Non, attendez, je vais pas passer pour un ayatollah pour un truc super rigoriste ou raide. Non, parce qu'en fait, on a beaucoup de liberté dans l'interprétation.
Bien sûr.
C'est juste de ne pas changer la musique. Je me rappelle d'une phrase de Gustave Léonard, que je vénère beaucoup, et qui disait. Qui disait dans un cours, attention à quelqu'un qui était en train d'orner une pièce de Bach, qui disait, attention, si vous changez quelque chose, il faut que ça soit mieux que ce qu'il y avait à la base. Et quand on a Bach en face de nous, pour faire mieux, parfois je me demande si on ferait pas mieux de rien faire.
Ouais, en fait on s'écrase devant le génie de Jean-Sébastien Bach. Et tiens, est-ce qu'on sait dans quel contexte toutes ces pièces de musique instrumentale, que ce soit les sonates de flûte, que ce soit les concertos pour clavecin, dans quel contexte Jean-Sébastien Bach jouait ça?
Non, je ne sais pas.
Ouais. Peut-être dans les cafés Zimmermann, dans les salons.
Certainement aussi dans les salons, oui, ou bien pour des particuliers, quoi.
Bon, on va écouter un extrait de ce disque qui était vraiment très très beau, qui est sorti sous le label Ramé. Je vous le rappelle, c'était il y a quelques mois.
Thank you.
Un extrait de la sonate pour traverso et clavecin obligé en sol mineur de Jean-Sébastien Bach, BWV 1027 ou 1039, les deux, interprété par Frank Tuns au traverso, Bertrand Cuillot au clavecin, cet extrait de ce très joli disque ramé qui est paru il y a quelques temps. Vous me disiez, pendant qu'on l'écoutait, Bertrand Cuillot, que Frank Tuns était un véritable geek de la flûte. Il y a eu beaucoup de préparation avant de faire ce disque, il a cherché le bon instrument, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'il réfléchit beaucoup sur l'instrument qu'il va jouer, et souvent c'est une idée d'instrument aussi qui lui donne une idée de programme. C'est-à-dire que là, il avait envie de jouer en même temps sur une flûte en la, une flûte très grave. Je crois que finalement, en fait, c'est des allées-venues entre l'instrument, le programme. Ça lui a donné une idée de programme avec des transcriptions, des versions primitives de certaines œuvres, comme la sonate en si mineur qu'on a jouée en sol mineur. Et finalement, je crois qu'il a joué sur une flûte plus aiguë. Mais enfin, bon, voilà, c'est beaucoup de recherches sur l'instrument, je comprends, c'est passionnant. Ouais. Et d'expérimentation.
Et vous me disiez aussi qu'il vous avait forcé à prendre des tempi assez lents.
Bah, forcé. J'ai pas dit forcé.
Non,
il m'a poussé.
J'exagère toujours.
Il m'a poussé à prendre des tempi lents parce qu'en fait, et c'était un très bon choix et que j'ai accepté. Enfin, c'était pas non plus une négociation incroyable, hein, mais juste, il avait envie de ça. Et j'ai senti que c'était un bon chemin parce que. Voilà, c'est un bac humble, quoi. C'est pas un bac technique ou c'est pas un bac de virtuosité.
Ou un bac scientifique.
C'est
un bac littéraire. Ce que vous voulez dire,
c'est un bac poétique.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets cet été ou des projets pour la rentrée? Tiens, avec votre ensemble, le Caravansérail, en dehors des concerts Bach, ouais, dont on vient de parler déjà, le 20 juillet à Saintes, le 13 août à l'Essai. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir?
Pour l'été, il y a pas mal de concerts, mais je vous invite à regarder sur Internet parce qu'il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer. Enfin, sauf si...
Le 23 août quand même, au Festival Symphonie en Périgord.
Voilà. Je vais jouer les variations Goldberg début août dans l'Aveyron, à Bournazel et à Richelieu, au Festival de Richelieu. Je vais jouer un projet avec un compositeur et musicien, Loïc Guénin, le 28 août.
Le 28 juillet.
28 juillet, pardon.
Non mais demandez-moi si vous voulez, je donnerai votre agenda.
dans les rencontres de Guil Durance à Mont-Dauphin. Et puis d'autres concerts avec Bruno Coxet aussi, tout début août.
Alors moi j'ai entendu dire quand même qu'il y avait un projet autour de Scarlatti pour la rentrée.
Ouais, bah oui.
Est-ce qu'on peut en dire un mot?
Oui, bah je continue un peu mon exploration de Domenico Scarlatti. Attention, pas Alessandro, Domenico, le fils. Donc avec tout un projet de disque pour Harmonia Mundi, un double album autour de toute son œuvre en fait. Donc le Stabat Mater qu'on a déjà enregistré pour 10 voix, cantate pour soprano, air d'opéra, duo d'opéra, symphonia d'orchestre, en fait, des genres de petites ouvertures d'opéra mini et survitaminées, les sonates de clavecin, encore des sonates de clavecin, et puis une sonate de violon, enfin voilà, un peu tout ce qu'il a fait d'autre aussi que les sonates de clavecin.
Donc ça c'est pour la rentrée sous la belle Harmonia Mundi, d'ailleurs...
C'est l'enregistrement à la rentrée, hein, parce entre l'enregistrement et la sortie, il y a toujours beaucoup de temps.
Donc enregistrement, sortie beaucoup plus tard. Voilà. En tout cas vous étiez Bertrand Cuillot de l'aventure Scarlatti 555, organisée par France Musique et le Festival de Radio France à Montpellier. C'est décidément un compositeur dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Il paraît même que vous voyez régulièrement le chiffre 555 partout. C'est vrai ça?
Il vaut mieux ça que 666. oui, je le vois souvent. Oui, je crois. Disons que, et puis en plus, là par exemple, on est au studio, je sais pas combien, 419. Mais à chaque fois que je passe devant un chiffre comme ça, entre 0 et 555, j'ai la sonate. Alors je les connais pas toutes quand même, mais souvent ça m'arrive d'avoir toute la partition et la tonalité et le truc qui revient. C'est une obsession. Oui.
En tout cas, croyez-le ou non, mais moi ce matin, en me levant, il était 5h55 pour venir. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de maléfique chez ce compositeur. On va se quitter, mais avant, je voudrais quand même dire une dernière chose, Bertrand Cuillot. C'est que moi, vous m'avez régalé pendant un an et demi de confinement. Il faut dire quand même aux auditeurs que vous êtes un des plus grands comiques que je connaisse. Faites des vidéos incroyables sur les réseaux sociaux, hilarantes. Vous avez amusé tout le monde musical, d'ailleurs. Et notamment, il y en a une en particulier, un truc complètement dingue. C'est que vous arrivez à chanter Frère Jacques en canon, tout seul. Ça, moi je ne sais pas comment on fait et je pense que c'est un exercice mental impossible et je voulais savoir si vous accepteriez de m'apprendre.
Je veux bien vous apprendre. Là, je peux pas le faire à trois voix parce que je me rappelle plus. Je m'étais fait quand même un petit pince-bête. Je veux bien vous faire à deux voix si vous voulez.
Montrez-nous.
Alors, je vais commencer à une voix. Je vais me ridiculiser sur France Musique.
C'est non, pas du tout.
Alors, frère Jacques, ne vous endormez pas. Hein. Frère Jacques, Frédore, mais j'avoue que, Frédore, mais j'avoue que, dans son irmélé, ma voutine, voilà, etc.
Mais c'est impressionnant. Moi, franchement, je ne sais pas comment. Il faut être claveciniste, à mon avis. Il faut avoir une notion des plans musicaux et des voix pour faire ça.
Le clavecin rend fou, surtout.
Ouais, ça doit être ça. Bon, en tout cas, moi, je vais m'entraîner. Hein. On va faire un petit cours là après l'émission. Merci beaucoup, Bertrand Cuiller, venu nous voir ce matin. Bon, on va se quitter avec Scarlatti, justement, une des sonates que vous aviez enregistrées dans le cadre du festival de Radio France. Je vous laisse deviner laquelle. Évidemment reconnu, Bertrand Cuiller, puisque vous les connaissez toutes par cœur.
143.
Yes, 143, Kirkpatrick 143, la sonate en do majeur, interprétée par vous-même. C'était dans le cadre de cette grande intégrale qu'on peut retrouver en vidéo aussi sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de France Musique. Je vous souhaite un bel été, Bertrand Cuiller.
Bel été à vous, merci
à bientôt.
Pour l'invitation.
Et bien voilà, Musique Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Il est temps de découvrir la réponse à notre jeu du jour. La réponse, c'était les Baléares. Ces jours pas très heureux d'ailleurs pour Chopin et George Sand, puisque George Sand avait déploré à l'époque les conditions précaires de ce voyage qu'elle relate dans un récit autobiographique, Un hiver à Majorque, où elle se montre très dure avec les autochtones dont elle ne comprend pas très bien le mode de vie. Ces jours au cours duquel Chopin n'était pas très bien lui non plus. Il faut dire qu'il souffrait d'une sorte de bronchite tuberculeuse. Il avait d'ailleurs été isolé un temps au monastère de Valdemossa où il avait composé son cycle de 24 préludes, opus 28, et sa deuxième ballade. Alors bravo à nos deux gagnants du jour, Daniel Matsoko qui habite Le Rouet dans les Alpes-Maritimes et Gaël Bollet de Quimper dans le Finistère. Tous les deux vous recevrez un exemplaire du disque des concertos de Chopin par Benjamin Grosvenor dans quelques jours. La journée de France Musique ne fait que commencer et elle se poursuit à 9h avec Aude Gigère pour l'été classique. Bonjour Aude.
Bonjour Clément.
Alors c'est quoi le programme du jour?
Alors aujourd'hui on part en Italie. Gênes, Venise, Palerme.
Alors là, vous pouvez pas me faire plus plaisir.
C'est vrai,
je sais pas si vous
bien.
Le saviez. Ah non, mais je suis un passionné d'Italie. Alors là, moi, je reste branché avec vous à 9h. Aude, à tout de suite. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouverai demain à 7h30 sur France Musique avec un autre invité, le pianiste Riopi. Je peux pas vous le décrire. Il est hors catégorie. Il vient d'écrire son premier album Bliss et il a une vie absolument incroyable. Un grand merci à toute l'équipe qui m'entourait ce matin. Florian Hénaud, Marion Guillemet et Flora Sternadel qui m'ont aidé à préparer cette matinale. À la console de pilotage, Fred Kiefer et Maïwenn Lejean ce matin. Le capitaine de bord étant bien sûr, comme tous les matins de l'été, Taïsia Froidure. Je vous souhaite une très très bonne journée à l'écoute de France Musique. Je vous dis à demain et je vous embrasse.
À réécouter sur francemusique.fr.